Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'émission Regard sur le passé du service du patrimoine de la mairie. En ce 36e jour de confinement, vous êtes avec Annabelle et je vais vous parler de l'histoire épique de Jeanne de Belleville, la tigresse bretonne. Propriétaire de l'île-Dieu, cette femme vengeresse deviendra la première femme corsaire de l'histoire. Nous voilà donc partis vers une plongée au cœur du Moyen-Âge, entre guerre de succession de Bretagne et guerre de Cent Ans, période troublée durant laquelle la vie de Jeanne de Belleville, comme vous allez le voir, a été un véritable roman de cape et d'épée. Cependant, son histoire a été largement romancée au XIXe siècle, mais les quelques archives historiques qui sont arrivées jusqu'à nous nous permettent malgré tout aujourd'hui de comprendre qui a été cette femme, comment sa vie amoureuse et la situation géopolitique de notre région à cette époque ont conduit Jeanne de Belleville vers un destin hors du commun. Voici ce que ces archives nous racontent. Jeanne est née en l'an 1300 dans la seigneurie de Lagarnache. Son père, Maurice IV de Belleville, était un puissant seigneur vendéen. Mais attention, parler de la Vendée est complètement anachronique puisqu'on est là bien avant la fondation du département de la Vendée. Notre département, au Moyen-Âge, faisait partie du Bas-Poitou. Donc, ce puissant seigneur du Bas-Poitou possédait un large fief composé des villes et châteaux de Lagarnache, de Montaigu, de Paluau, de Beauvoir-sur-Mer et de Belleville-sur-Vie. Il possédait également les trois îles que sont l'île-Dieu, Noirmoutier et l'île de Boin. Boin aujourd'hui, c'est une petite ville dans le marais breton vendéen, mais au Moyen-Âge, c'était encore une île. Malheureusement, très jeune, Jeanne de Belleville va perdre ses deux parents. Alors orpheline, elle est placée sous la tutelle de son frère, Maurice V de Belleville, héritier de la seigneurie. Quelques années plus tard, alors qu'elle n'était âgée que de 12 ans, il la marie de force à un riche seigneur breton, Geoffroy de Chateaubriand. Mais il n'empêche que l'année de ses 18 ans, elle rencontre l'amour de sa vie, Olivier de Clisson. Ils sont tous les deux du même âge et Olivier, à l'époque déjà, est un seigneur extrêmement puissant puisqu'il possède un vaste fief comprenant les places fortes de Clisson et de Blain. Bref, c'est l'amour fou entre eux. Ils entretiennent une relation extra-conjugale et se retrouvent régulièrement dans une maison de Nantes, propriété de Jeanne, où elle avait l'habitude de séjourner pour traiter ses affaires commerciales. L'année de leurs 20 ans, Jeanne met même au monde une fille adultérine, prénommée Isabelle. Après la naissance de cette fille, et malgré son amour, Olivier doit se plier au mariage. Jeanne étant déjà mariée, on lui arrange un mariage avec l'une de ses prétendantes, Blanche de Bouville. Et là, 5 ans après ce mariage, patatras, le mari de Jeanne meurt. Elle a alors 26 ans et impossible pour elle d'épouser Olivier, il venait se marier. Et comme son frère Maurice V était également décédé, elle se retrouve à la tête d'un large et prospère territoire englobant les biens de sa famille et ceux de son défunt mari. En tant que femme, elle est alors dans l'obligation de se mettre sous la protection d'un homme et de se marier. Elle choisit pour cela Guy de Penthièvre, un seigneur breton extrêmement puissant lui aussi et ancien ami de son père, mais de 12 ans plus vieux qu'elle. Elle se remarie donc une seconde fois en 1326. 4 ans plus tard, la femme d'Olivier de Clisson meurt à son tour. Jeanne est toujours folle amoureuse de lui et saute sur l'occasion. Mais elle est mariée à Guy de Penthièvre. Elle va alors faire des pieds et des mains pour trouver une solution, pour trouver un compromis, et avec l'accord de son mari, elle va obtenir l'annulation de son mariage par le pape. Enfin, ça y est, à 30 ans, fini les amours contrariés, Olivier et Jeanne vont enfin pouvoir se marier. Mais attention, la situation géopolitique de l'époque était extrêmement complexe. Comme je vous le disais, Olivier était un puissant seigneur de l'Ouest. Il possédait les places fortes et les seigneuries de Clisson et de Blain. Ces fiefs étaient situés sur ce qu'on appelle les marches de la Bretagne, c'est-à-dire à la frontière du duché breton. En épousant Jeanne, son domaine est élargi vers l'ouest, jusqu'à la mer, en incluant les îles stratégiques que sont l'Île-Dieu et Noirmoutier. Les bénéfices de ces deux seigneuries sont colossaux, notamment grâce à la production de vin dans le Clissonnet et du sel autour de la baie de Bourgneuf. Jeanne percevait d'ailleurs sur les ventes de cet or blanc un impôt nommé la gabelle. Pour résumer, le fief d'Olivier recouvrait une grande partie de la Loire-Atlantique d'aujourd'hui et celui de Jeanne, une grosse part du nord de la Vendée actuelle. C'était là une région clé située entre l'Aquitaine au sud, qui était alors aux mains des Anglais, l'Anjou à l'est, qui appartenait aux Français, et au nord, le duché de Bretagne. Et pour pallier aux convoitises de ses différents voisins, Olivier et Jeanne vont entreprendre la construction de nombreux châteaux forts pour défendre leurs terres, et le château de l'Île-Dieu en est d'ailleurs un parfait exemple. Leur mariage est un véritable succès. On sait aujourd'hui qu'Olivier a laissé une grande autonomie à Jeanne dans la gestion de ses fiefs et qu'il prenait régulièrement conseil auprès d'elle pour l'administration de ses affaires. Bref, il coule des jours heureux et Jeanne met même au monde deux garçons, Olivier et Guillaume. Mais ce bonheur est quand même de courte durée, puisque 7 ans après leurs noces, la guerre de 100 ans est déclarée, opposant les Français et le roi Philippe VI aux Anglais d'Édouard III. Et presque en même temps, au niveau local, le duc de Bretagne, Jean III, décède sans avoir désigné de successeur. La Bretagne entre alors dans ce que l'on appelle les guerres de succession bretonne, et deux clans se disputent la gouvernance du duché. D'un côté, les Blaisistes, avec à leur tête Charles de Blois, allié aux Français, et d'un autre côté, les Montfortistes, regroupés derrière Jean de Montfort, allié des Anglais. Olivier va donc devoir choisir un camp, soit rendre hommage aux Français avec Charles de Blois, soit aux Anglais avec Jean de Montfort. Et ça ne sera pas une décision très simple à prendre, hein, puisqu'il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Au Moyen-Âge, la notion de nation n'existait pas encore. Un seigneur s'alliait à une personne, à un roi ou à un duc, plutôt qu'à un pays. D'ailleurs, par exemple, son jeune frère, va choisir de s'allier aux Anglais. Après réflexion, Olivier va quant à lui choisir le camp français. Charles de Blois le nomme alors gouverneur de la ville de Vannes. Il doit donc quitter ses terres, ses proches, sa femme, ses enfants, pour se rendre dans la ville bretonne. Malheureusement, quelques mois plus tard, les Anglais assiègent Vannes. Il est capturé, fait prisonnier et ramené dans le camp anglais. Il y restera 13 mois jusqu'à la signature de la paix de Malétroit. Cette paix signée entre la France et l'Angleterre ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas elle stipulait que les prisonniers de chaque camp devaient être libérés. Olivier peut alors rentrer chez lui et retrouver sa famille. Mais, juste avant l'été de cette même année 1343, il reçoit une invitation du roi de France Philippe VI pour participer à un tournoi organisé à Vincennes en l'honneur du mariage de son fils. Olivier doit alors s'y rendre et il choisit 14 chevaliers bretons pour l'accompagner. Le tournoi se passe à merveille, Olivier et ses chevaliers ont une grande maîtrise hein, dans chaque épreuve, mais à la fin du tournoi, coup de théâtre. Olivier et ses 14 bannerets sont arrêtés et amenés dans la prison du Châtelet à Paris. Stupéfait, Olivier est jugé dans la nuit, et vous connaissez tous la réputation des jugements du Moyen-Âge, au petit matin, le verdict tombe. Soupçonné d'avoir pactisé avec les Anglais quand il était prisonnier et de leur avoir donné des informations pour leur faciliter leur entrée dans la ville de Nantes, il est condamné à mort. À mort pour félonie, c'est-à-dire traîtrise et intelligence avec l'ennemi. Il est amené place des Halles et pour reprendre un terme de l'époque, on lui décolle la tête. Son corps est ensuite amené au gibet de Montfaucon et sa tête est transportée jusqu'à Nantes où elle est exposée sur les remparts de la ville. Sans aucune preuve tangible, le roi de France vient de tuer un riche seigneur de l'Ouest extrêmement puissant. Et avec cette mort infamante, il décide clairement de jeter le déshonneur sur sa famille. Jeanne, pauvre Jeanne, apprend la triste nouvelle quelques jours plus tard et ne comprend évidemment pas pourquoi le roi a fait tuer son mari. Elle considère sa mort comme un véritable meurtre et décide de se venger de ce roi ignoble que son mari avait pourtant servi avec loyauté. Elle a 42 ans. Elle décide de quitter son château de Clisson avec ses soldats et ses deux fils, Guillaume, âgé de seulement 3 ans, et Olivier, 7 ans. Elle réussit à allier à sa cause plusieurs seigneurs bretons montfortistes et à la tête d'une armée de plus de 4000 hommes, elle va réussir à prendre plusieurs places fortes, Torfou, Lannion, Saint-Yves, etc. Le roi de France, à ce moment-là, ne peut clairement pas intervenir, car il risquerait de rompre la paix de Malétroit. Il décide alors de confisquer tous les biens de Jeanne et signe son arrêté de bannissement. Quiconque arrêtera Jeanne se verra récompensé. Elle décide alors de continuer le combat, mais cette fois par voie maritime. Elle fait l'acquisition de 3 bateaux, constitue des équipages et prend la tête de cette petite armada sur un cog, une sorte de gros voilier de commerce armé, qu'elle baptisa ironiquement « Ma vengeance ». Après avoir hanté les campagnes et les forêts, la tigresse bretonne va désormais infliger des coups importants au commerce maritime français. Le roi d'Angleterre va lui fournir une lettre de course et elle va ainsi devenir la première femme corsaire de l'histoire. Elle amène alors ses bateaux dans la Manche et surtout autour de l'embouchure de la Seine, car en s'en prenant depuis ce point stratégique aux bateaux de commerce français, elle veut clairement porter préjudice à l'approvisionnement de la cour à Paris et donc directement aux finances royales. Sous le commandement de Jeanne, de nombreux bateaux portant pavillon français sont attaqués et leurs biens sont confisqués et ramenés dans le port anglais de Plymouth. Après de nombreux mois d'attaques incessantes, Ma Vengeance, le bateau de Jeanne, fait naufrage sur des hauts fonds près de Morlaix. Obligée d'abandonner le navire, elle prend place dans une chaloupe avec ses deux garçons. Il faut préciser d'ailleurs que ces garçons, elle les a gardés pendant toute cette épopée à ses côtés. Leur dérive va durer 6 jours avant d'arriver sur les côtes bretonnes. Et en cet hiver 1344, son plus jeune fils Guillaume décède à bord. Une fois arrivée à Morlaix, elle décide de quitter définitivement la France et de se réfugier en Angleterre avec son dernier fils, Olivier. Là, évidemment, elle est accueillie à bras ouverts à la cour du roi d'Angleterre. Elle épouse même, en 4e mariage, un lord anglais, Walter Bentley, lieutenant du roi d'Angleterre en Bretagne. Elle meurt en Angleterre, justement, quelques années plus tard, à l'âge de 59 ans, sans avoir obtenu l'annulation de son bannissement, ni la jouissance de ses domaines, et sans avoir réussi à ramener l'honneur sur sa famille. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Il nous reste son fils, Olivier. Ce dernier a été élevé à la cour du roi d'Angleterre, avec d'ailleurs le jeune Jean de Montfort, le fils de son père, qui portait le même nom que lui. Et une fois adulte, il va aider ce dernier à conquérir le duché breton et ainsi mettre un terme aux guerres de succession de la Bretagne. En 1370, le jeune Olivier rompt son alliance avec les Anglais et s'allie au nouveau roi de France, Charles V, plus favorable à sa famille. Il est alors nommé par ce nouveau roi assistant de Du Guesclin, pourtant son illustre ennemi. Et à la mort de ce dernier, c'est lui, Olivier V de Clisson, qui est nommé connétable de France, c'est-à-dire le chef de toutes les armées françaises. Moi, je trouve qu'il s'en sort pas mal, hein, quand même, ce jeune Olivier, avec Une mère qui a été corsaire et un père condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi. Mais il a quand même dû garder quelques séquelles de son enfance mouvementée, puisque son surnom sera et restera le boucher. Quoi qu'il en soit, ses biens lui sont restitués, dont le château de Lisieux. Il va même élargir considérablement ses domaines et deviendra le plus puissant des seigneurs bretons. Et c'est lui qui finalement va réussir à venger son père, à restaurer l'honneur sur son nom et sur les armes de sa famille. Voilà pour l'épopée de Jeanne de Belleville et de son fils Olivier. J'espère que ce voyage dans l'histoire vous aura passionné. Et je vous donne rendez-vous maintenant vendredi avec Pauline qui vous parlera des naufrages autour de l'île. Bonne suite de confinement à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir !